passante.
La bande passante. Nicolas Benita, Alain Pilot.
Certains le surnomment le Clapton français. Élevé aux Beatles et aux Stones, il n'a jamais choisi l'un ou l'autre. Vice-roi du blues français aux côtés de ses collègues Bill Durham, Benoît Blueboy, Patrick Verbeek et Little Bob. Ses débuts remontent au début des années 70. Il est aujourd'hui la pièce qu'il manquerait s'il n'était pas là dans le puzzle du blues hexagonal. Bonsoir Paul Persson.
Salut.
Si le trajet historique du blues relie le delta du Mississippi à Chicago, votre trajet géographique, d'où part-il et où s'arrête-t-il pour le moment ?
D'où il part, certainement de ma banlieue parisienne d'Argenteuil. Et j'espère qu'il ne s'arrête pas encore.
Et là, pour l'instant, il s'est posé où, ce trajet géographique ?
Oh là, il s'est posé à Paris, là. Ouais. Mais disons que pour moi, c'est bizarre, parce que c'est une sorte de parcours un peu de rêve, quoi. C'est-à-dire... Il y a des tas de choses d'adolescence, de groupes, de musique, d'Angleterre, d'Amérique, tout ça est mêlé et en fin de compte, je suis juste un petit Français qui joue de la guitare, qui fait de la musique, quoi. Mais c'était riche, tout ça.
Paul Persson, vous allez nous faire partager votre nouveau disque Puzzle 14, sorti le 29 septembre dernier, en compagnie de votre groupe À l'Ouest, c'est son nom, ce dont nous vous remercions. Et puis, saviez-vous que Joe Strummer des Clash était un fan de l'Andalousie ? François Musso nous appelle de Madrid, soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique en morceaux, à tous les étages.
Le mystère du puzzle de la vie que l'on tente de résoudre.
Je passe tous les jours à la croisée des chemins.
Une pièce grise, une pièce noire.
Il faudrait partir aujourd'hui.
Les bords sont faciles à placer, mais après...
Une journée de plus à passer.
Reste à l'intérieur une grande zone à construire.
Être toujours tout seul, du début à la fin.
La patience s'exerce dans le jeu de la vie. Et c'est pour tout le monde le solo du puzzle.
Les âmes se bousculent à la croisée des chemins.
Des morceaux s'étalent, des tranches de vie aux contours irréguliers, et ça ne rentre pas.
Ça fait mal, c'est mal, vraiment mal.
Les zones d'ombre sont difficiles à cerner, noir sur noir, mais ça va où ça ?
J'ai pas l'image, j'ai pas le son. Mes lèvres se brûlent à une question.
Comment résoudre cet inextricable puzzle ?
Essayez
le puzzle de la vie.
Appréciez.
L'image peu à peu se révèle. Dans le coin là-haut, une éclaircie.
Chaque journée subie est un appel vers le ciel.
Des pièces se posent, le puzzle se construit, un oiseau passe.
Je ne suis qu'un nuage, semblable et différent.
Et le nuage s'étend au-delà du cadre.
Tes lèvres se brûlent à cette question.
Dites, Paul, quelle est l'image de votre puzzle ?
Elle s'appelle Elsa Nimal. Alors, Paul Persson ?
L'image de mon puzzle,
oui.
C'est la vie, c'est tout. C'est l'inattendu, de toute manière. C'est la pièce manquante, le puzzle. Donc, dès le moment où on est toujours à la recherche de quelque chose, l'image, elle change un peu tous les jours, quoi. Mais, en gros, c'est ce qui nous entoure, c'est la vie, c'est les gens, c'est, c'est les paysages, c'est tout ça, quoi. C'est une sensation pour moi, l'histoire du puzzle et de la pièce manquante. C'est ces histoires d'amitié, des histoires d'amour, quoi.
Treize albums commis entre 1982 et 2011, guitariste de génie, reconnu par les plus grands artistes, de Johnny Hallyday à Eddie Mitchell, qu'il écoutait ado sur sa radio, en passant par Jacques Higelin ou encore Alain Bachung, et sa plus récente coopération fut avec Hubert-Félix Thiéphaine. Le temps nous sépare si souvent que nous sommes contents qu'il soit là pour embellir une journée, Paul Personne.
Une journée
personnes en session bande passante sur RFI. Le 31 octobre au Festival de Guitare d'Issoudun, le 18 janvier à Ris-Orangis au célèbre Plan, le 20 janvier à Paris et l'Olympia qu'il connaît évidemment parfaitement bien. En session électroacoustique sur RFI, Paul Persson à l'instant avec une journée qui n'est pas encore terminée. Pour quelle bonne raison ? Bien pour celle-ci justement, pas d'image, mais quelle scène ? Personne. Pour quelle bonne raison ? Et le groupe à l'Ouest, troisième disque que Paul enregistre avec ce groupe, Anthony Bélanger, guitare-voix, Nicolas Bélanger est à la basse et au cœur, et Brice Alanic était au congas, enfin aux percussions là cette fois-ci, et aux voix, et Paul Persson est en tournée dans toute la France.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle.
Le fameux façon pulse de Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs, même si vous abordez le respect pour les éléphants notamment, ou les sauterelles si vous avez eu un peu de place, sans oublier l'aigle qui est en relief sur la pochette colorée de cet album. Il est beaucoup question d'amour dans votre puzzle 14 pour le personne, mais une femme qui rend jaloux, est-ce que ça se dynamite, ça se disperse, ça se ventile?
Oh, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là?
Je vous le demande.
Ouais. Mais je pense pas qu'il y a de, il y a de règles, il y a de lois. Je pense qu'on peut combattre contre une sorte de jalousie maladive, quoi. Je pense qu'il y a, enfin, si on essaie d'y penser, moi j'y pense depuis que je suis ado, quoi. La vie sert à faire un progrès constant et permanent. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont comme ça, qu'ils sont nés comme ça, et que c'est comme ça que ça doit s'arrêter. Et moi, j'ai jamais pensé ça. Je pense que faut toujours tout remettre en cause, toujours tout remettre en question, quoi.
Je t'imagine sur cette plage, asphyxiée, l'air de rien, en train de m'oublier. J'imagine que tu n'es plus si seul. Oh, appelle-moi. J'imagine des mains dans tes cheveux.
Inspiré par le Jealous Guy de John Lennon, un peu jaloux, sur le nouvel album de Paul Person, Puzzle 14, une jalousie qui dure 5 minutes 53 avec un bel instrumental de 2 minutes sur la fin. Le narrateur imagine sa bien-aimée encerclée de prédateurs virils. Viril ou pas, est-ce que vous en avez croisé des prédateurs dans ce métier, Paul ?
Oh là là. Mais là, la liste serait trop longue et on manquerait de temps, ouais, bien sûr. Mais en même temps, je sais, tout le monde est un prédateur. Je pense que dans, même là, par rapport à ce thème de chanson, je pense qu'un homme ou une femme, dès le moment où il y a de la séduction, où il y a une forme de drague ou de recherche de sentiments ou d'actes, l'instinct animal revient très très vite. Je pense que un mec qui drague dans une boîte n'est qu'un prédateur, quoi.
Paul Person, dans vos nouveaux textes, il est aussi question de trahison, d'abandon ou d'humiliation. Qu'est-ce qui vous a fait souffrir récemment ?
Oh, récemment, j'arrive pas à analyser. Il y a des choses qui me font souffrir en permanence. Je pense que le JT est très utile pour la souffrance, hein, en tout cas.
Le journal télévisé.
Ah ouais, c'est terrible, quoi. Ça, c'est, on voit des images. J'essaie de le regarder qu'une seule fois par jour parce que je peux pas supporter plus. Mais disons que, voilà, quand on voit ce qui se passe, qu'on sait ce qu'on est, ce que l'être humain est, bon ben voilà, à chaque fois, j'arrive pas. J'avais écrit Barjolin dans 84 et je pense que de toute manière c'est toujours pareil, je suis toujours atterré devant ces images. Donc ma souffrance, on va dire qu'elle est, elle est quasiment quotidienne, quoi, dès le moment où je regarde le JT, quoi.
À propos, entre autres, des conditions de vie difficiles en banlieue urbaine, un extrait de Ça fait mal, à suivre juste après le journal Paul Person, toujours en session en bande passante. Et puis, un Joe Strummer des Clash comme vous ne l'aviez peut-être jamais connu, puisqu'il était très amoureux de l'Andalousie en Espagne. Et on le retrouve donc juste après en compagnie de François Musso qui sera en direct pour nous de Madrid. Restez avec nous sur RFI, tout de suite le journal. À tout à l'heure.
Musique.
Musique. Musique. Retour de la bande passante sur RFI en compagnie du plus connu des chanteurs et joueurs de blues et de rock français, auteur qui n'a jamais été un has-been mais se considère comme un never-been, compositeur, interprète, auteur, je le disais, une carrière de 30 ans sans fausse note et un nouveau disque de 13 titres qui vont vous faire danser autant que chanter. Rebonsoir pour le personne.
Re-salut.
Nous allons continuer à assembler ce puzzle musical que vous venez d'imaginer et puis nous partirons pour la péninsule ibérique si chère à Joe Strummer des Clash. François Musso nous confirme cela depuis Madrid, mais juste avant, un petit tour au jardin pour emprunter le chemin du destin.
La bande passante. Alain Pilot.
Passage de la croisée des chemins, Paul Persson, un des 13 morceaux de Puzzle 14, cette croisée des chemins qui m'a fait penser aux alentours de Clarksdale dans le Mississippi, où le fameux bluesman Robert Johnson se perd à un carrefour et vend son âme au diable. Mis à part des disques, est-ce que vous n'avez jamais rien vendu d'autre à des personnes mal intentionnées, Paul?
Non, pas trop, non.
Alors, j'avais bien vu là ou pas? Sur ce ouais, croisement.
Ouais, disons que c'est une référence légendaire, ce crossroads, ce croisement des chemins. Et c'est vrai que mon héros d'histoire, là, il essaie quand même. Il va tous les jours à ce crossroads parce que c'est aussi les rencontres, quoi. J'ai passé une partie de mon adolescence, à l'époque ça marchait bien, à lever mon pouce et puis à me barrer en stop pour des destinées inconnues ou parfois vaguement connues, quoi. Et c'était aussi cette sorte de recherche de rencontre comme ça, parce que c'est comme ça que la vie s'enrichit, c'est pas en restant chez soi, enfin à moins, même si tu bouquines énormément, faut te confronter à la vraie vie, quoi, je pense. Alors évidemment, il y a parfois les rencontres malheureuses, ça arrive, mais disons que cette croisée de chemin, pour moi, elle est symbolique, même si ça évoque ce truc de Robert Johnson. Pour moi, c'est un truc important, quoi.
Allô, François Musso?
Bonsoir Alain, bonsoir Paul Persson.
Salut.
Bonsoir François Musso, même heure à Madrid qu'à Paris, vous vous trouvez François. Le troisième festival CBGB qui se déroule à New York et qui propose une dizaine de films et quelques 200 concerts présente notamment un documentaire qui nous replonge dans les années 80. On y voit Joe Strummer, le chanteur charismatique du groupe punk des Clash, mort en 2002, fréquenté passionnément l'Espagne. Le cinéaste Nick Hall nous montre donc l'ancien membre phare des Clash comme un fou de l'Espagne. Qu'est-ce qui explique cet engouement de sa part? Il y aurait une histoire de voiture, non François?
Oui, en tout cas, c'est la partie anecdotique qui donne même le nom au film documentaire. Cela s'appelle « J'ai besoin d'une Dodge ». Joe Strummer en cavale, on est dans les années 80. Le chanteur des Clash cherche alors une voiture de marque américaine, une Dodge, et on lui dit qu'elle se trouve en Espagne. Finalement, il ne la trouve pas et il cherche à en acheter une autre. Tout cela, évidemment, un prétexte. À l'époque, apparemment, Joe Strummer s'ennuie ferme dans la très rigoriste Angleterre dominé par Margaret Thatcher, et il cherche un peu l'exotisme dans une Espagne qui, à l'inverse, baigne en pleine période festive. Cela s'appelait la Movida, littéralement le mouvement, bien une sorte d'explosion sociale et culturelle qui, juste après la fin du franquisme en 75, bien voyait l'essor d'un cri de liberté. Alors dans cette Espagne de la Movida, tout était permis, toutes les fantaisies, on vivait plus la nuit que le jour, plus encore qu'aujourd'hui. Le cinéaste Pedro Almodovar, par exemple, était alors un mauvais musicien qui se défonçait à toutes les drogues. C'est cette ambiance fantasque et libertaire qui avait séduit à l'époque Joe Strummer.
On sait qu'il a fait plusieurs séjours jusqu'à 1986, lorsque sa petite amie a un deuxième enfant. Ce sera la fin de cette passion espagnole. Apparemment, l'Andalousie était ce qui l'attirait le plus.
Oui, l'Andalousie, Joe Strummer en parlait comme d'une passion littéralement, une obsession même. L'Andalousie est
plus précisément, selon le film documentaire de Nick Hall, qui a donc duré 4 ans en tout, la ville de Grenade. Il faut dire que là, on est autant dans la réalité que dans le mythe, parce que depuis la fin du 19e siècle, avec les voyageurs orientalistes britanniques, Grenade est un mythe dans l'île britannique, une représentation idéalisée d'une sorte de paradis sur terre entre plaines et montagnes, avec l'Alhambra comme vue, et puis le quartier de l'Albaïcine. Et puis aussi, à Grenade, la fascination pour le poète Federico Garcia Lorca, assassiné en 1936, c'est-à-dire tout au début de la guerre civile par les troupes franquistes. Et bien depuis, Garcia Lorca a été source d'inspiration pour une génération d'artistes, par exemple pour le chanteur Leonard Cohen, mais pour beaucoup d'autres, dont Joe Strummer. L'ancien chanteur des Clash a d'ailleurs une place à son nom dans le Realejo, l'ancien quartier juif de Grenade. Elle a été inaugurée en 2013, donc l'an dernier, en présence de Gaby Slater, son ancienne petite amie, et de Lucinda Garland, sa veuve, avec un concert nostalgique des anciens du 091, de 091, un groupe espagnol de l'époque avec qui Joe Strummer se produisait.
Muchas gracias, thank you very much, François Musso, à bientôt.
À bientôt.
On raccroche avec The Clash et Spanish Bombs.
Spanish Bombs on the Costa Rica, I'm dying here on the DC tonight. Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my God, I thought.
Spanish Bombs de Clash 1979 sur l'album London Calling, l'Andalousie pour Joe Strummer. Et vous, Paul Persson, où se trouve votre coin d'Andalousie?
Oui, je ne sais pas si je l'ai si je l'ai encore trouvé. Je pense que je suis encore à la recherche.
Ah bah c'est bien.
Moi je suis. C'est vrai que les États-Unis m'ont vachement fait rêver quand j'étais ado. L'Angleterre aussi à l'époque où il se passait vraiment quelque chose. Sinon, je suis assez fan de la France, je me lasse pas de traverser la France dans tous les sens, en tournée et tout. C'est vrai que j'ai des coins que j'aime plutôt bien, comme l'Ardèche, comme le Quercy, enfin des coins comme ça. J'ai vécu longtemps du côté de Toulouse, donc je pense de toute manière, on sait pas ce qui nous attend, donc ça peut arriver du jour au lendemain, des nouvelles découvertes. Quoi.
Et Paul Persson ne cherche pas de voiture.
Tu chavires, je t'attends. Oh, quel truc magique, Miss Natural Honey. Quand on commence, on peut plus s'en passer.
Paul Persson, un petit extrait de Miss Nature. C'est une ode à votre région du Perche d'adoption ou à une femme ou à les deux, aux deux?
Je pense que c'est une ode à ce que la nature nous a donné. Mm-hmm. Bon, moi je me place du côté d'un mec, vu que apparemment j'en suis un. Donc voilà, je pense que c'est une chanson plutôt sexy, quoi, on va dire.
Actuellement, il écoute Jonathan Wilson, les Rival Sons, Blackberry Smoke, les Black Angels, les Black Keys, Rich Robinson ou Tom Petty, Gibson en bandoulière, mais peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une Takimine, je crois. Ce monsieur blues rock est l'un des musiciens majeurs de l'Hexagone. Après 3 ans d'absence, il nous propose son 14e album et une 3e version bande passante. Décollage immédiat.
Les étoiles et les oiseaux.
paraît plus beau. J'ai connu le feu et la tempête, j'ai connu l'extase et les défaites. C'est presque fini, les saisons passent, je veux pouvoir choisir comment ça se passe. Oh, laissez-moi m'envoler plus haut, vers les étoiles et les oiseaux. Laissez-moi m'envoler plus haut, là-bas où tout paraît plus beau.
Paul Persson, guitare, voix, Anthony Bélanger, guitare, voix, deux guitares lead, un peu comme les Allman Brothers. Nicolas Bélanger est à la basse et au cœur, et Brice Alanic au congas, non, à la batterie, j'y tiens mes congas, à la batterie et au cœur. M'envoler plus haut, au garage de la bande. Puisque vous nous faites jouer au puzzle, Paul, nous avons nous aussi un petit jeu pour vous, celui du test à l'aveugle. Et vous me dites, Paul Persson ?
Ah, l'incroyable Jimmy, quoi. Enfin, c'est monstrueux. J'entends ça, là. On se le prend vraiment dans la tronche. Jamais égalé, quoi. Le temps passe et il y a de grands guitaristes actuellement, mais qui sont vachement dans la technique, dans la rapidité. Et là, il y avait un émotionnel énorme, une sauvagerie. Jamais égalé. Maintenant, les mecs, ils ont plein d'amplis, plein de pédales. Lui, il avait pas grand chose. Enfin, il avait quand même un petit mur de Marshall derrière, puis une boîte de...
Les Marshall sont les amplis, hein, je précise.
Ouais, puis une pédale de saturation, mais c'est ce qui dégageait, ce qu'il a. J'ai toujours dit qu'il y avait bien évidemment, le avant Jimmy et le après Jimmy, quoi.
Voodoo Child, donc, ouais. À l'instant. Hendrix, qui, comme vous, au début, jouait sur une Gibson, puis sur une Fender Stratocaster dont on fête les 60 ans. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que la prochaine, ce sera une Fender Stratocaster pour vous?
J'ai eu ma période Strat, ouais, vachement. Dans au début des années 70, évidemment, j'étais un fan inconditionnel de Jimmy, de Rory Gallagher, de mecs qui jouaient sur Strato comme ça. Et j'aimais cette guitare, qui a un son évidemment plus clean que la Gibson. Et tout doucement, j'ai viré de bord. C'est peut-être en réécoutant plein de bluesman, en particulier B.B. King, Freddie King, Albert King. Tous ces mecs jouaient sur des guitares Gibson et avaient ce son chaud et moelleux comme ça. Et je pense que dès que j'ai eu trois ronds, il fallait une guitare de spare, enfin de secours, on va dire. Et donc, plutôt que de m'acheter une Telecaster, enfin de rester dans la famille Fender, je me suis trouvé une Gibson. En même temps, ma première guitare que j'avais achetée en Angleterre, j'avais une vingtaine d'années, était une SG Junior blanche, donc j'avais dégoté là-bas, donc une guitare Gibson. Donc voilà, je suis revenu, c'est vrai que je suis plus sur ce son un peu chaud, et on peut avoir un son comme ça, même à bas niveau, avec une Strat, faut avoir des pédales, des tas de trucs, pour avoir le son de Jimmy, faut jouer fort, quoi.
Mais la Strat comme vous, qui n'a pas vieilli, puisqu'elle est sexagénaire aussi, vous n'êtes pas vraiment un vieil homme. Paul Persson, c'est à vous.
Oh bah c'est ce Allman de l'album qui a fait reconnaître Neil Young dans le monde entier. Et je pense que Harvest, c'est son album légendaire. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Ça faudrait lui demander. Mais je crois pas que lui, il l'affectionne particulièrement plus qu'un autre. Mais je crois que c'est le. Ouais, c'est le dans plein de familles. Je pense que ce disque est dans la discothèque et je sais que pour moi c'était un disque vachement chouette à l'époque de la folle entreprise. On mettait ça pour se réveiller le matin en vivant en communauté et tout. Il y en a toujours un mec qui se levait puis qui mettait le début d'Harvest tout doucement pour réveiller tout le monde. Et pour moi Neil Young c'est une grosse influence. Mais j'adore Crosby, Stills, Nash & Young. Crosby m'a beaucoup influencé, Stephen Stills aussi, mais Neil Young, c'est le mec qui, sur la durée, arrive à pondre toujours des très belles choses, quoi.
Et si on a écouté un extrait de cet album mythique, c'est parce que vos acolytes se sont arrangés pour faire à l'identique la grange qui se trouve au dos de la couverture de la pochette d'Harvest. C'est leur studio qui est comme ça, qui ressemble un peu apparemment à la grange d'Harvest, c'est vrai?
Au début, ouais, il y avait ce côté très, très, très campagne, très country. Mais depuis, ils ont bossé comme des fous, ils en ont fait un vrai studio, quoi.
Allez, peut-être le meilleur pour la fin maintenant. C'est un sans faute pour Paul Persson pour l'instant, donc dernier titre, vous m'annoncez.
Ah oh bah écoute, okay, ça serait pas les Rolling Stones, je crois.
Ah
là,
pas loin, pas loin, pas loin.
Ah bah mon groupe préféré, quoi, les Beatles, je crois que quand ils sont arrivés en 63, je crois, sur la seule chaîne française qu'il y avait à l'époque en noir et blanc, avec leur agité, leur coupe de cheveux, leur tronche, et qu'on a commencé à écouter She Loves You et tout ça. C'était une révolution, quoi. L'attitude de ces mecs, la manière de répondre aux interviews, et puis cette manière qu'ils avaient de disque en disque, de à chaque fois apporter des choses nouvelles qu'on n'avait encore jamais entendues. Ouais, pour moi, les Beatles, c'est une énorme influence, quoi.
C'était The End, et puis on se quitte avec ce fond de générique de fin de l'album, le bien nommé Partir pour mieux revenir, sur ce disque de Paul Persson. Quelle fut la dernière pièce apportée à ce disque, Paul?
La dernière pièce?
Ouais, puisque vous parlez d'un Pulse.
Ah, oh, je sais pas, la pochette.
Merci infiniment.
Merci à toi.
À bientôt, gouvernant de la maison, Pierre Vallée, ingé son du garage, Benoît Le Tyran et Joris Lalagarde. Le code du portail RFI.fr, si vous avez du mal avec la clé, essayez m.rfi.fr. La bande repasse demain en compagnie de Charlie Licouture. Passez une très bonne soirée, tout de suite le journal. Salut à tous.